Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 18 juin 2014. Il est 6h, temps universel, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Les États-Unis arrêtent en Libye un des responsables présumés de l'attaque du 11 septembre 2012 contre leur consulat à Benghazi.
Attentat suicide au Nigeria contre des fans se regardant hier la Coupe du Monde à la télévision.
La CPI veut une enquête onusienne sur une manipulation de la mission ONU-Union africaine au Darfour.
Le vice-président Biden estime qu'une aide d'urgence est clairement requise en Irak.
Entretien téléphonique hier entre Vladimir Poutine et Petro Poroshenko sur un possible cessez-le-feu dans le sud-est de l'Ukraine.
Et nous aurons en fin d'émission le journal de la Coupe du Monde et la musique de Roger Muntou. Pour l'instant, le journal. Les États-Unis ont donc arrêté un des responsables présumés de l'attaque meurtrière contre la mission diplomatique américaine de Benghazi en Libye. Les précisions de Darina Naidoo.
Le suspect, Ahmed Abu Katala, a été arrêté dimanche lors d'un raid des forces américaines en Libye. Le Pentagone a indiqué qu'il est détenu dans un endroit sûr, hors de la Libye, et va être transféré aux États-Unis. L'année dernière, Abu Anas al-Libi, un autre responsable présumé d'Al-Qaïda, a été capturé dans un raid similaire en Libye. Pour le président Barack Obama, les États-Unis ont une nouvelle fois démontré qu'ils feront tout leur possible pour que justice soit rendue lorsque l'on se prend à des Américains. Abu Katala se trouvait devant le consulat américain de Benghazi le 11 septembre 2012 pendant l'assaut où quatre Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens, ont été tués. Cette attaque avait entraîné une vive polémique ici à Washington, les républicains accusant la Maison-Blanche d'avoir cherché à étouffer le caractère terroriste de l'attaque.
Des fans du foot ont été de nouveau ciblés en Afrique, cette fois-ci au Nigeria, à Damaturu, dans le nord-est, par un kamikaze. L'explosion s'est produite dans un centre de visionnage des matchs de la Coupe du Monde de football. Selon des témoins, il y a eu plusieurs morts et les hôpitaux de la ville parlent de dizaines de blessés.
Personne n'a revendiqué cet attentat. Damaturu est la capitale de l'état de Yobe, où a été déclaré l'état d'urgence comme dans ceux de Borno et d'Adamawa. Suite à une série d'attaques meurtrières de la milice islamiste Boko Haram. La semaine dernière, deux États, Adamawa et Plateau, avaient ordonné la fermeture de tels centres de visionnage craignant d'éventuels attentats de Boko Haram. Dans de nombreuses vidéos, rappelle l'AFP, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a décrit le football et la musique comme des perversions venues d'Occident dans le but de dévier les musulmans de la religion.
Au Mali, vaste chasse à l'homme pour retrouver Mohamed Ali Ag Wadoussen, le djihadiste qui a ouvert le feu et tué un gardien de prison. Il s'est évadé lundi avec d'autres prisonniers de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Qui est ce djihadiste malien? La réponse de Kassim Traoré.
Le cerveau de l'évasion de la prison centrale de Bamako s'appelle Mohamed Ali Wassiden. Il est né le 9 avril 1989 à Kidal, de Wassiden et de Assi Walet Ita, sœur de Seda Ag Ita, chef de la Katiba Youssef Bentakin. Mohamed Ali est un déserteur de la garde nationale du Mali. Il est du contingent 2009. Il est l'organisateur principal du rap des deux Français le 29 novembre 2011 à Ombouri. Il a effectué cette opération au compte de la Katiba Atiba El-Ansar, qui dirige Abdelkarim El-Targhi, neveu d'Iyad Agali. Il a été arrêté par la sécurité d'État du Mali le 10 décembre 2011 à Gao, puis mis sous mandat de dépôt en mars 2012. Il a profité de la défaillance du système pénitentiaire pour renouer le contact avec son oncle Seda Ag Ita. Il a réussi des moyens financiers et des matériels pour planifier son attentat terroriste contre la prison centrale de Bamako. Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Darfour, la CPI demande une enquête de l'ONU sur une manipulation de la MINUAD, la mission ONU-Union africaine au Darfour. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, réclame une enquête complète, indépendante et publique sur des accusations selon lesquelles la mission ONU Union africaine au Darfour aurait été manipulée pour dissimuler des crimes commis par Khartoum contre les civils et les casques bleus. Ces accusations ont été portées dans la revue américaine Foreign Policy et par une ancienne porte-parole de la MINUAD, Aïcha El-Basri. Dans son rapport devant le Conseil de sécurité, Mme Bensouda a par ailleurs dénoncé les actions des Rapid Support Forces, une milice pro-gouvernementale qualifiée de nouvelle version des Janjaweeds qui commettent depuis 2003 des atrocités au Darfour. Elle a aussi fustigé l'incapacité du Conseil à faire arrêter le président soudanais Omar El-Béchir, inculpé par la CPI, mais qui se déplace sans jamais être inquiété dans plusieurs pays signataires du traité de Rome.
L'Égypte a libéré Abdullah El-Shami, le journaliste d'Al Jazeera qui était en prison depuis 10 mois. El-Shami, qui était détenu sans inculpation, faisait la grève de la faim depuis janvier. Les procureurs ont ordonné sa libération pour, disent-ils, des raisons de santé.
El-Shami a été arrêté en août dernier alors qu'il couvrait pour Al Jazeera la manifestation de partisans de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi que venait de renverser l'armée égyptienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le vice-président Joe Biden estime qu'une aide d'urgence est clairement requise en Irak, mais le numéro 2 américain n'a fourni aucun détail sur une quelconque assistance des États-Unis. Henri Francisque.
Monsieur Biden a fait cette déclaration à Brasilia, où il a rencontré la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Pour lui, les Irakiens doivent se ressaisir pour mettre fin à la violence sectaire. Selon des officiels irakiens, au moins 44 prisonniers ont été tués dans une attaque des militants contre une prison de la ville de Bakouba. On ne sait pas au juste qui a tué ces détenus. Certaines dépêches ont parlé hier de militants et d'autres d'officiels irakiens de la sécurité. À la morgue de la ville, on dit que les prisonniers ont été abattus à bout portant, selon leurs blessures à la tête et à la poitrine. Un porte-parole du premier ministre irakien Nouri al-Maliki aurait déclaré à l'AFP que les détenus ont été tués par les insurgés lors de leur assaut de lundi soir. Auparavant, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait exhorté le chiite Maliki à tenir des pourparlers en Irak et à adopter une approche plus inclusive quant à son gouvernement. Les militants sunnites de l'État islamique en Irak et au Levant ont, en l'espace d'une semaine, conquis plusieurs villes irakiennes et menacent maintenant Bagdad, la capitale.
Vladimir Poutine, le président de la Russie, s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue ukrainien, Petro Poroshenko. Selon le Kremlin, l'entretien a porté sur un éventuel cessez-le-feu dans le sud-est de l'Ukraine.
Aucun détail n'a été fourni à ce sujet, mais Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a dit que M. Poutine a exprimé sa préoccupation au sujet de la mort de deux journalistes d'État russe hier près de la ville ukrainienne de Luhansk. Selon Peskov, Kiev a promis d'ouvrir une enquête sur ce qui leur est arrivé. Des dépêches datées de la région disent que leur véhicule a été atteint par des tirs au mortier près de la ville tenue par les rebelles pro-russes. Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Washington, la voix de l'Amérique. Le ministre de l'économie et des finances du Mali, Madame Boiré Fili Sissoko, achève ce mercredi à Washington des négociations serrées avec le Fonds monétaire international. Fin mars, l'institution de Bretton Woods avait formulé 10 recommandations pour compenser des faiblesses reprochées à la scène, reprochées à la chaîne de dépenses au Mali. Le FMI s'est également inquiété récemment de l'achat d'avions présidentiels et de fournitures pour l'armée. Pour faire le point, Mme Boiré Fili Sissoko, qui menait cette semaine à Washington une forte délégation, on l'écoute.
En fait, on est là dans le cadre d'une mission de suivi du programme entre le Mali et le Fonds monétaire international. La facilité élargie de crédit qui porte sur 3 ans. Il y avait eu des échanges préliminaires par courrier entre le Fonds monétaire et nous, notamment les équipes techniques travaillant sur le Mali. Donc, sur la base de ces échanges de courriers qui, quand même, il faut le dire, durent depuis un certain temps, nous, partie malienne, nous avons souhaité venir à la suite de notre dernière réponse, qui semblait globalement aller dans le sens de la satisfaction d'un certain nombre de points de précaution relevés par le fonds. Donc, discuter avec eux et les finaliser avant l'été.
Vous pensez donc que le fonds a été satisfait des mesures prises par le gouvernement?
Oui, nous pensons qu'ils considèrent que les mesures que nous proposons vont dans le bon sens. Maintenant, il faut s'accorder sur leur calendrier de mise en œuvre et maintenant aller de l'avant.
Qu'en est-il de la reprise de l'économie malienne?
Du point de vue de la reprise de l'économie malienne, nous pensons que les choses repartent parce que le taux de croissance évolue suivant les perspectives que nous avions prévues dans le budget, c'est contenu dans les marges. Donc, au bout du compte, on ne sera pas à plus de 3%, ce qui est un peu la norme indicative pour cette période au niveau de l'Union. En termes de taux d'inflation, là aussi, je pense qu'on sera dans des limites acceptables. Et par rapport à ça, nous pensons que la reprise, elle est en bonne voie pour 2014. Maintenant, le financement de l'économie, comme vous le savez, c'est le gros problème dans nos pays. Les capacités d'endettement de notre secteur privé sont telles qu'ils ont besoin d'un certain accompagnement à travers les arrangements en matière de réglementation et autres mesures incitatives. Et c'est là où on parle de l'amélioration du climat des affaires.
Est-ce que la culture du coton a bien repris?
Oui, c'est en bonne voie pour cette année. Les perspectives sont bonnes. Donc, on attend la fin de la campagne pour se prononcer là-dessus. Mais nous maintenons le cap par rapport aux perspectives initiales.
Madame Boiré Félix Sissoko, ministre de l'économie et des finances du Mali, au micro de Camille Grosdidier.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Côte d'Ivoire, la crise qu'a connue récemment le pays a favorisé la création de nombreuses mines d'or clandestines dans les régions centre, nord et ouest. L'exploitation sauvage de ce métal précieux crée un manque à gagner pour l'État et appauvrit les sols, nous dit notre correspondant sur place, Germain Dri, qui s'est intéressé aux sites de Nafanan et de Kasséré.
Dans le nord de la Côte d'Ivoire et singulièrement à Nafanan, village situé à 5 km du Mali, environ 5000 orpailleurs venus de la sous-région creusent nuit et jour le sol à l'aide de pioches et de dabas. Leur objectif, trouver de l'or pour améliorer leurs conditions de vie. Alassane Diallo est originaire du Mali.
Souvent, c'est un gramme, deux grammes comme ça. Souvent, je vais comme ça sans gagner quelque chose aussi. Un peu qu'on gagne là, on revend en même temps avec les grossistes là. C'est un truc qui paye avec nous.
L'opération est pénible. Il faut aussi avoir de la chance.
De Tamaklo. Je suis venu du Togo. Nous faisons le travail de l'or seulement. C'est difficile. Il faut qu'on rentre dans ça pour avoir notre manger. Si tu as la chance même, tu peux gagner des kilos. Et puis il y a des gens qui nous gèrent, donner le manger. Et quoi si on est arrivé, on partage avec lui.
En midou, du coup. On ne sait pas en quel jour qu'on va trouver, ça dépend de Dieu.
Aux côtés de ceux qui creusent les trous, il y a plusieurs activités qui gravitent autour de la recherche. Bamba Oumar.
On travaille dans mouler pour écraser les cailloux. Les gens prennent pour laver, pour enlever l'eau là.
Traoré Fantumata vend diverses marchandises.
Je ne peux pas descendre dans l'eau pour travailler. J'ai problème de zoo, donc c'est pas facile pour moi. Et on vend du riz ici, un peu de médicaments, puis bon. Cigarettes, oui, on se débrouille pas mal.
À Kasséré, les conditions de travail sont différentes des autres sites d'extraction. Ouattara Karim est le gérant.
C'est une ligne, c'est comme une route. Nous ne constatons pas tous les dégâts par rapport aux terres que tu vas. Bon, on creuse souvent jusqu'à 20, 25 mètres, 30 mètres.
Aucun droit n'est versé à l'État. Les orpailleurs règlent leurs droits avec les propriétaires terriens.
Fin de semaine, on nous demande de payer des billets de 1000 francs.
Devant les dégâts que l'exploitation non contrôlée des métaux précieux occasionne, la présidente de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire a lancé ce cri de détresse. Fatiga Sirakone.
Si nous ne faisons rien aussi pour l'organisation de ce secteur, c'est la Côte d'Ivoire même qui risque aussi de perdre sa place dans le secteur de l'agriculture. L'orpaillage aujourd'hui est en train de prendre le dessus. Nos jeunesses sont en train d'abandonner le chemin des champs au profit de l'orpaillage. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos jeunes filles aujourd'hui font la prostitution sur les sites. Nos populations ne peuvent plus boire de l'eau parce que nos eaux sont polluées par l'utilisation du mercure et du cyanure.
Notons qu'environ 100 opérateurs qui ont sollicité l'agrément de l'État en novembre dernier sont toujours en attente. Germain Dri, Tengrela dans le nord de la Côte d'Ivoire, la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Burkina Faso, la loi fait obligation aux propriétaires de véhicules automobiles à quatre roues de prendre une assurance. Mais entre le droit des assurés et le devoir des assureurs, il y a souvent un fossé en cas d'accident. Les explications de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Au Burkina Faso, les véhicules à deux roues ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance. Par contre, les quatre roues le sont. Mais avoir une police d'assurance n'est pas une garantie quand survient un sinistre. Écoutons l'histoire de Seydou Nikiema Di Nixon avec son assureur après un accident.
J'ai renversé un motocycliste et après les constats d'usage, j'avais tort. J'ai dit au policier, bon, d'accord, j'ai tort, mais mon assurance va prendre en charge. Et l'intéressé en question a marché pendant très longtemps pour qu'on puisse résoudre son problème. En son temps, quand je m'assurais, on me faisait savoir que même si j'avais eu un petit bobo, que j'ai tort ou raison, l'assurance allait réparer ma voiture. Et je me suis renseigné par rapport à ça. On m'a fait purement et simplement savoir que non, dans ce cas-là, c'est aux deux tiers la moto de l'individu que j'ai renversé qui sera réparée. Et moi, je n'avais qu'à me débrouiller de moi-même.
Voilà pourquoi Issa Kalengani a, lui, choisi la gamme la plus basse des assurances, juste pour respecter l'obligation. On écoute Issa Kalengani.
Oui, généralement, cette assurance-là permet de couvrir les charges sur le véhicule ou bien celui que vous avez cogné. Bon, mais il faut dire, généralement, en tout cas, ce qui me concerne, j'attends rarement de rentrer en possession de ces droits-là lorsque je suis en difficulté parce que ça prend énormément de temps, des courses de la papier-série. Et donc, généralement, on s'entend au bord de la route pour régler. Entre accidentés, on s'entend pour qu'on se règle les petits problèmes et puis on circule. L'assurance, c'est essentiellement pour ne pas avoir de problème avec la police.
Nous sommes allés vers une compagnie d'assurance pour comprendre pourquoi les assurés ont souvent des difficultés pour leur prise en charge quand il y a un sinistre. Soumaïla Traoré, le chef du service auto à Jackson Assurance s'explique.
Les gens n'ont pas tendance à lire ce qui se trouve dans les contrats d'assurance, ce qui fait que lorsqu'il y a un sinistre, la plupart des assurés tombent des nues. Sinon, je dirais tout de go que les exclusions sont mentionnées dans les conditions particulières ainsi que dans les conditions générales. Et cela en caractère gras et apparent. Dans la plupart des compagnies d'assurance, notamment à Jackson Assurance, lorsqu'un assuré vient s'assurer, nous prenons le temps de l'expliquer et de le faire comprendre à quoi il s'engage.
Pour trancher, voici ce que dit Mamadou Traoré. Il est le bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina.
Au moment où vous souscrivez, ce qui vous intéresse, vous, assuré, c'est de savoir combien je paye. Et quand vous avez payé, vous pensez que vous êtes quitte avec l'assurance ou avec la réglementation qui impose cette assurance. Mais maintenant, lorsqu'il y a un sinistre, au moment où l'assurance doit jouer, qu'on se réfère au contrat, le plus souvent, on se rend compte que l'assurance a prévu tellement d'exclusions que le reste qui peut être pris en charge est insignifiant. Est-ce la faute de l'assurance? Est-ce la faute de l'assuré? Les torts sont partagés parce que est-ce que l'assuré a la possibilité de discuter? Peut-être pas de toutes les clauses, mais de certaines clauses. Et c'est ce qui ne se fait pas et c'est l'un des grave problème.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, dans Washington Forum, les insurgés islamistes marchent sur Bagdad et en réponse, les États-Unis envisagent un rapprochement avec l'Iran. Quelle solution après cette dernière crise politico-sécuritaire a frappé l'Irak? Envoyez-nous vos commentaires et questions sur la page Facebook Washington Forum. Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h PU.
Washington, La Voix de l'Amérique, tout de suite, et de Manaus, le journal de la Coupe du Monde, avec l'envoyé spécial de La Voix de l'Amérique, Nicolas Pinault.
Bonjour à tous, un nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde depuis le Brésil, toujours depuis l'Amazonie, où aura lieu ce soir le match Cameroun-Croatie. Et on reparlera de Samuel Eto'o qui désormais laisse planer le doute sur sa participation au match. Retour ce matin sur l'entrée en lice du dernier représentant africain, l'Algérie, qui a longtemps cru au miracle. Les Fennec ont longtemps mené 1-0 devant la Belgique suite à un pénalty transformé par Feghouli. Mais dans les 20 dernières minutes, la Belgique a refait son retard et a réussi à l'emporter 2-1. A noter qu'en dehors de ce pénalty, l'Algérie n'avait pas marqué lors des 5 derniers matchs de Coupe du Monde. Son dernier but remontait au 3 juillet 1986 contre l'Irlande du Nord. Un certain Zidane avait marqué, il s'appelait Jamel, et le score, un but partout. Grosse déception, vous l'imaginez, à Alger, comme l'explique Ibrahim Taharout, le rédacteur en chef du journal L'Expression à Alger.
C'est vraiment une grosse déception, parce qu'on a marqué, mais on a manqué de fraîcheur physique. Et puis, la déception est d'autant plus grande chez les Algériens, parce que nous avons pris l'habitude toujours de nous montrer un peu coriaces devant les grandes nations du football. Je rappelle qu'en 82, on a battu l'Allemagne, en 86, on a tenu tête au Brésil, et en 2010, on a tenu tête à l'Angleterre. Donc, on s'est dit, cette fois-ci, même si les Belges, c'est une équipe forte, mais on sera toujours égal à nous-mêmes. Bon, on a mené au score pendant toute une mi-temps et puis on a fléchi, on a manqué de fraîcheur physique. C'est vraiment une grosse déception ici à Alger. Aujourd'hui au stade, il y avait près de 4000 supporters, mais d'après nos correspondants sur place, on a été un petit peu déçus par les Brésiliens qui supportaient la Belgique. Mais c'est les Colombiens qui nous ont supportés, c'est les Marocains, c'est les Palestiniens, c'est les Tunisiens qui ont supporté les Fennecs.
Notre confrère algérien Ibrahim Taharout qui était joint à Alger. Ce matin, la Belgique est en tête de ce groupe H après le match nul hier soir, un partout entre la Russie et la Corée du Sud. La Voix de l'Amérique, à l'heure brésilienne. Retour aussi sur le match nul du Brésil. Le pays organisateur n'a pas pu battre le Mexique à Fortaleza. Score nul et vierge 0-0, grâce notamment à Ochoa, le gardien mexicain qui a gardé sa cage inviolée pendant 90 minutes. Le Brésil ne convainc donc toujours pas dans son mondial, même si le sélectionneur Luis Felipe Scolari s'est déclaré content de son équipe. Dans ce groupe A, Brésiliens et Mexicains restent en tête avec 4 points chacun avant le match de ce soir à Manaus entre le Cameroun et la Croatie. Alors la grande question, contre les Croates, les Lions indomptables joueront-ils avec ou sans Samuel Eto'o ? Vous vous souvenez, la star avait annoncé lundi son forfait pour une blessure au genou. Eh bien, marche arrière hier, Samuel Eto'o a déclaré qu'il pourrait finalement être sur le terrain. Je ne peux pas donner de réponse satisfaisante et même si je le savais, je ne le dirais pas. Le foot, c'est aussi ses petits secrets avant le match. C'est de la stratégie, c'est normal, toutes les équipes le font. En tout cas, je ferai tout ce qui est mon possible pour être avec mes coéquipiers, a déclaré l'attaquant camerounais Mystère donc. Et le blogueur sportif camerounais Patuncha explique les possibles changements que les sélectionneurs Volker Finke pourraient effectuer au cas où Samuel Eto'o ne jouerait pas.
Le coach a annoncé d'ores et déjà qu'il va remanier le système de jeu. Donc on pense plus à une attaque à deux, donc Aboubakar, Vincent, je pense Webo. Et sur les côtés, on aura Choukou Moting et Benjamin Moukandjo. À Yaoundé, on a espoir parce que moi, je suis à Yaoundé en ce moment. Les gars sont confiants et ils savent juste qu'on doit se déchirer et se déséquilibrer pour parvenir à renverser cette montagne qui se dresse devant nous. Je suis dans la rue et tout le monde est inquiet pour le moment parce qu'on ne sait pas quel jour on aura. Tout le monde est inquiet, mais chacun garde quand même un fin espoir.
Oui, parce que le premier match, c'était quand même assez décousu. Hein. Beaucoup de gens n'ont pas reconnu les Lions.
Et les gars sont entrés, beaucoup d'entre eux sont entrés avec la peur dans le ventre. Le souci, surtout de mal faire, ils n'ont pas assez répondu aux Mexicains. Parce que le Mexique a promis l'enfer aux Lions depuis le mois de mars. Après le tirage au sort, le Mexicain avait promis l'enfer aux Lions.
Le blogueur camerounais Patuncha, qui était joint à Yaoundé. Autre réaction sur ce match, c'est évidemment celle de Jules Valentin Ngoué pour son coup de sifflet.
We celebrate the best African football.
Bonjour. Impossible n'être pas camerounais. Scandale est celui du Baron Rond en Afrique il y a encore 2 décennies, alors que les Lions indomptables dominaient la jungle du football africain et renversaient les montagnes lors des grands rendez-vous mondiaux, faisant la fierté de l'Afrique tout entière. L'Argentine de Maradona ou la Colombie du fringant Valderrama en savent quelque chose. Les Lions étaient alors les chouchous de tous les Africains après leur équipe nationale. Un quart de siècle plus tard, le temps a fait son œuvre. L'exode massif des joueurs a appauvri le championnat national. Les talents purs se sont fait rares et les nombreux matchs amicaux FIFA ont rendu les équipes prévisibles. La source des exploits a tari, les victoires ont fui. Tenez, depuis 2002, aucune victoire en Coupe du Monde et 3 défaites en 2010. La défaite du Cameroun contre le Mexique vendredi est donc venue toucher l'enthousiasme des plus optimistes. Mais ne dit-on pas également que le Cameroun n'est pas aussi dangereux que lorsqu'il est au mur? Surtout qu'en lieu et place d'une formation au jeu latin étourdissant, les Lions croisent la route de la Croatie au jeu typiquement européen qui leur convient plus. L'exploit est possible et les Lions ont le devoir de le réaliser pour provoquer un retour d'amour que le continent attend depuis 24 ans. À demain.
À noter ce soir deux autres matchs dans le groupe B. On surveillera la réaction de l'Espagne, championne du monde en titre, après la claque prise contre les Pays-Bas. Les Espagnols affrontent le Chili et les Néerlandais face à l'Australie. Avant de terminer, je vous donne le classement des buteurs. Toujours en tête avec 3 buts, Thomas Müller, l'Allemand, avec 2 buts ex-aequo, Benzema, Neymar, Robben ou encore Van Persie. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde préparé par Bagassikoura et Nicolas Pinault. Idrissa et tous les fidèles de la Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur ce site spécial voabrésil2014.com à ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde.
Et maintenant, la page musicale de Roger Montou. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. L'équipe du Cameroun a su faire face au Mexique ce 13 juin 2014 à Natal. Samuel Eto'o et ses partenaires affirment avoir été battus tactiquement au milieu de terrain par les Mexicains. Pour les encourager, ce matin, on écoute Pepe Calé dans Roger Mila.
La Guinée mon sang, Milano,
les Lions indomptables ont été, pour ainsi dire, domptés durant leur premier match dans cette Coupe du Monde 2014.
Oui, Idrissa, mais tous les Lions ne sont pas abattus. Ils peuvent encore se qualifier en 8e de finale. Ils rencontreront la Croatie aujourd'hui. Espérons qu'ils sont en train de suivre la voie de l'Amérique et que cette chanson boostera leur énergie.
Pepe Calé dans Roger Mila. Merci Roger.
De rien Idrissa, un coucou à El Presidente Mariam Koulibaly à Bamako.
Roger Muntou, que vous retrouverez dans le RM Show à 20h temps universel. Sur la Voix de l'Amérique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.